rencontre avec. Le mot rencontre se définit curieusement par rencontrer quelqu'un ou quelque chose de manière fortuite ou non sur son chemin. Comme si le mot rencontre se définissait par rencontre. En attendant la nouvelle année, je vous propose, comme un calendrier de l'avant et de l'après, 5 lectures avec 4 autrices et un auteur, des lectures que je vous recommande d'offrir, de partager, de lire évidemment, des lectures qui m'ont permis de mieux comprendre le monde. Rencontre lecture avec « Pas même le bruit d'un fleuve » d'Hélène Dorion. Voici la lecture de la quatrième de couverture. J'avais longuement interrogé mes parents pour connaître leur passé, mais seul mon père répondait à mes questions. Simone ne se souvenait de rien, pas même de sa jeunesse. Dans une boîte ayant autrefois appartenu à sa mère, Anna découvre de mystérieux carnets, photographies et coupures de journaux. Un passé trouble dont elle ne sait rien. Sa mère, Simone, fut toujours silencieuse comme absente de sa propre vie. Anna décide alors de suivre la piste des documents et de remonter le fleuve Saint-Laurent. De Montréal à Kamouraska, elle embarque dans un voyage à travers le siècle et son histoire familiale, jusqu'en 1914, année où naufragea le paquebot oublié, l'Empress of Ireland. Lecture d'un chapitre au début du roman. Vivre, c'est suivre les traces de l'enfant qu'on a été. À cette hauteur du fleuve, l'horizon est sans rivage. On peut dire la mer. Ici, les tempêtes nous dérobent le ciel et parfois même nos rêves. Comme des arbres, dont les branches sont d'inextricables enchevêtrements, poussent en emprisonnant d'autres arbres, chaque histoire se fraye un chemin entre la vie et la mort. On n'en devine jamais toutes les racines et les points de vacillement qui font qu'elles cassent, ou bien elles ne cassent pas et se rapprochent des étoiles qui l'éclairent légèrement. Nous ne sommes pas très différents de ces forêts clairsemées d'arbres eau semblables à des amas d'ossements qui défient le ciel, mais peuvent d'un moment à l'autre se disloquer. Nos racines courent le sol, invisibles, impossibles à déterrer toutes. On peut essayer d'en arracher une, espérer qu'elle nous mènera vers une autre, qu'on pourra dégager, elle aussi, et ainsi de suite, jusqu'à ce qu'on perçoive un sens à cette histoire qu'on appelle « notre vie ». Simone s'avance sans hésiter dans l'eau glacée. Elle sait qu'il n'y a pas de seuil, on n'y pénètre que brutalement, ses pieds s'enfoncent dans le sable froid. Elle affronte les premières vagues et avance encore, jusqu'à ce que l'eau atteigne ses hanches. Alors elle plonge. Ce n'est qu'après un long moment qu'elle émerge à la surface pour respirer. Combien de temps dure une nuit ? Se demande-t-elle en se laissant glisser dans l'eau sombre. Rien ne fait peur à ceux qui ont tout perdu. La mer devient une cage d'obscurité. Mais Simone ne craint ni le froid ni le noir qui durera peut-être. Bientôt ses mains toucheront les algues et la boue. Elle descend encore et croit retrouver le tableau accroché dans le salon de la maison familiale qu'elle regarde si souvent, persuadée que cette œuvre, le rêve des profondeurs, lui apprend à mieux voir, à mieux saisir les mouvements de la vie contre lesquels elle se débat, les formes qui se dissolvent et en recrée aussi de nouvelles. C'est donc ainsi que l'on peint, ainsi que l'on doit vivre, se dit-elle, en fixant le vaste désespoir qui se déplace en elle et avale lentement tout le bleu. Simone aime ces instants où elle sent son corps s'engourdir. Puisque l'eau ne connaît pas le temps, il cesse alors de s'écouler. Elle ferme les yeux et synchronise machinalement le mouvement de ses bras à celui de sa tête qui se tourne tantôt vers la droite, tantôt vers la gauche. Elle respire au moment où son bras passe juste au-dessus des eaux et revient claquer contre les vagues. Elle nage. Et tant qu'on nage, se dit-elle, on ne peut pas se noyer. Elle aime sentir que chaque séquence éloigne un peu plus les pensées, car on ne pense pas lorsqu'on nage. Il y a trop de monde, celui du tumulte et de la beauté, celui du vide qui happe et du plein qui soutient. Trop de monde pour que celui de la pensée puisse s'immiscer. Combien de temps dure la nuit ? La marée est haute, les vagues fortes, mais Simone ne les voit pas. Elle nage, ses jambes marquent une cadence régulière, et lorsqu'une vague survient au moment où elle ouvre la bouche pour respirer, elle recrache sans effort l'eau salée qui goûte les larmes, goûte ce vide qu'aucune mer ne pourrait noyer. Elle nage. Il n'y a pas de rive à atteindre, se dit-elle. C'est bon d'être un moment libérée, de ne plus lutter contre les courants qui font basculer, d'agiter les bras et les jambes sans réfléchir et de s'en remettre à l'aiguille du temps qui tourne, quoi qu'il arrive. À moins que ce soit cela, vivre, entrer dans le courant sans contourner les récifs et les hauts fonds, sans éviter les pierres que la marée aura au fait de projeter sur la grève. Le ciel est parfois une consolation. Lorsqu'aucun oiseau n'enraye la surface, ce bleu devient un refuge auquel la terre se raconte et... Parfois, elle paraît attendrie qu'on l'écoute si bien, alors elle montre sa vie et ne dit plus rien. Simone lève la tête. À travers le brouillard léger qui frissonne au-dessus des eaux, elle croit apercevoir quelque chose, une barque ou peut-être un rocher, un de ces rochers difficiles à percevoir et qui écorche les coques des bateaux téméraires. Vers quelle île suis-je en train de dériver, se demande-t-elle. Une île où l'on n'existe plus vraiment, où l'on cherche un point de clarté au milieu de la nuit, une source vers laquelle on est ramené. Un rivage qui pourrait être un début du monde ou de notre propre existence, le rien qui cogne sur le rien et engendre des millénaires, quelques atomes au creux du néant, et cela suffit pour que la vie commence. Elle ferme les yeux, arrête le mouvement de ses bras, comme pour voir si la bonté de l'eau saura la porter. Peut-elle flotter en ignorant d'où vient le vent et où vont les marées ? Allongée sur le dos, les bras en croix, ouverts comme des voiles légères à la surface de l'eau, la tête immergée, Simone n'entend plus que le bruit sourd du monde. C'est le son des souvenirs, des voiles déchirées, des mâts cassés, les vagues trop hautes qui broient les navires. Elle se met à réciter spontanément un poème qu'elle a recopié dans un cahier. « Homme libre, toujours tu chériras la mer est ton miroir, tu contemples ton âme. » Dans le déroulement infini de sa lame, et ton esprit n'est pas un gouffre moins amer. Le courant l'emporte vers le large, ou bien ce sont les nuages qui coulent dans un fleuve embrouillé, une architecture mouvante, des oiseaux qui planent comme des épaves dans un ciel d'orage et de ruines. Que ressent-on, se demande-t-elle, quand l'eau pénètre par le nez, qu'elle emplit les yeux, s'immisce et descend dans l'estomac? Que ressent-on quand elle glisse dans tout le corps et l'étreint jusqu'à l'étouffer ? À quel moment sait-on qu'il est trop tard, qu'on ne peut plus revenir ? Et comment imaginer que ce fleuve, tantôt encore grandiose, devient soudain un poison dans la bouche de ses victimes ? Simone s'abandonne à ce paysage incertain, mais une vague plus forte la fait basculer. Lorsque son corps se met à couler vers l'obscurité, elle se cambre. D'un coup de rein, elle remonte et se retourne sur le dos. Les yeux ouverts, elle regarde le ciel rempli d'écume, se dit que la nuit ne finira pas, le son des souvenirs viendra la percuter encore longtemps. Ce ciel n'a rien d'une promesse. Simone ne sent plus ses bras, plus ses jambes. Elle se laisse dériver en espérant échouer sur un écueil. C'était ma lecture rencontre avec pas même le bruit d'un fleuve d'Hélène Dorion, que je vous recommande vivement de lire, d'offrir, de partager.